accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, la liberté de manifester est-elle menacée en Grande-Bretagne? Début mai, 4 jours avant le couronnement de Charles III, une nouvelle loi sur l'ordre public est entrée en vigueur. Principale prérogative, la possibilité pour les policiers d'arrêter des individus de façon préventive. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. Dès la cérémonie royale du 6 mai à Londres, la police a fait usage de ses nouveaux pouvoirs avec une cinquantaine d'arrestations qualifiées d'arbitraires pour un bon nombre d'entre elles, au point que la police a dû s'en excuser par la suite. Le reportage à Londres de Marie Billon.
Il savait qu'il ne serait probablement pas très bien accueilli par la foule, mais il ne pensait pas qu'il serait cueilli par la police. Graham Smith et 5 autres membres de son organisation antimonarchiste Republic ont été arrêtés le 6 mai au matin aux abords de la place du centre de Londres, Trafalgar Square. Ils comptaient manifester en scandant le même message que celui qui est inscrit sur leur banderole, « Not my king, ceci n'est pas mon roi ».
Presque immédiatement, la police nous a fait des difficultés. Les agents ont fouillé le van où se trouvaient nos pancartes et ont décidé de nous arrêter, 5 militants et moi. Un peu plus tard, ils ont interpellé 2 autres membres de notre organisation qui se trouvaient sur l'avenue du Mall, sur la route du cortège. Nous avons tous été arrêtés de manière illégale et sans aucune raison. Selon moi, c'était une manœuvre délibérée de la police afin de réduire le nombre de participants à notre manifestation.
Graham Smith a été arrêté au nom de la nouvelle loi sur l'ordre public, le Public Order Act 2023, qui est entré en vigueur en urgence le 2 mai dernier. La police pensait qu'avec les sangles à bagages qui se trouvaient dans son van, lui et les autres membres pouvaient ou comptaient s'attacher à des barrières ou à du mobilier urbain, par exemple, comme l'ont fait d'autres manifestants dans le passé. Ces sangles, assure Republic, se déchiraient très facilement et surtout, elles devaient servir à attacher les pancartes. Graham Smith a été réarrêté un peu plus tard dans la journée alors qu'il était toujours en détention provisoire au poste ce 6 mai, au nom d'une autre loi datant de l'année précédente pour conspiration dans le but de causer de la nuisance au public. Et après 16 heures passées au poste, il a été libéré. Peu de temps après, Graham Smith a reçu des excuses personnelles de la police présentées par 3 officiers venus chez lui. Toute poursuite a été abandonnée, mais le chef de l'organisation antimonarchiste a rejeté les excuses de la police métropolitaine de Londres.
La police aurait dû nous libérer assez rapidement s'il n'avait pas de bonnes raisons de nous garder. Il y a des raisons de penser que le but était de nous garder au poste le plus longtemps possible, pour nous empêcher de retourner manifester pendant que l'événement était en cours et pour nous empêcher de parler à la presse le jour du couronnement. Clairement, pour moi, la pression est venue de tout en haut. Le palais a dû intervenir auprès du gouvernement qui a ensuite insisté auprès de la police pour qu'elle perturbe notre manifestation. C'est scandaleux. On ne peut pas arrêter les gens pour des raisons politiques, mais c'est ce qui s'est passé.
En tout, 52 personnes ont été interpellées le jour du couronnement du roi. Dans la plupart des cas, les poursuites ont été abandonnées. Paul Stevens, ancien officier de la police métropolitaine de Londres et aujourd'hui officier de liaison avec la Met pour l'organisation Extinction Rebellion, partage l'avis de Graham Smith. Il y avait, il en est persuadé, de la préméditation dans la manière dont les agents ont agi.
Vu l'importance de l'événement, si le carrosse avait été stoppé, par exemple, ça aurait été très embarrassant pour la police métropolitaine. Ça aurait pu avoir une influence sur le cours de la livre sterling, sur la manière dont la famille royale est perçue. Ça aurait pu être un événement considérable. Mais ça ne change pas la loi. Ça n'enlève pas aux gens le droit de venir avec leurs pancartes et manifester paisiblement. Donc je pense que les arrestations étaient illégales. Et, c'est simplement mon opinion, je crois que la décision a été prise d'arrêter toute personne qui aurait pu potentiellement causer de l'embarras à la police métropolitaine.
Pour l'ex-policier Paul Stevens, les autorités se sont servies des informations en leur possession pour intervenir. Graham Smith avait été en lien avec la Met, lui indiquant où Republic comptait manifester et avec combien de pancartes, combien de mégaphones.
Le gouvernement veut dissuader les gens de manifester grâce à une loi au contenu très vague. Je sais ce que c'est d'être un policier. On veut protéger les gentils et combattre les méchants. Mais le gouvernement met les agents dans une position dans laquelle ceux dont on sait qu'ils sont les gentils, parce qu'on est en contact avec eux, sont présentés comme les méchants. Ça met beaucoup de pression sur la police et en particulier les officiers sur le terrain.
Devant une commission parlementaire qui se penchait sur les événements du 6 mai, Matt Twist, le sous-préfet provisoire de la Met, a affirmé n'avoir ressenti aucune pression politique. « J'étais sous pression », a-t-il ajouté, « pour assurer le bon déroulement des événements, parce que pour beaucoup de gens, c'était une expérience qu'on ne vit qu'une seule fois. » Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la police s'excuse pour avoir eu la main un peu lourde, confirme Paul Stevens. Alex Benn est un avocat criminel. Lui aussi est très sceptique quant à la pertinence de cette nouvelle loi sur l'ordre public.
La manière dont le texte de loi est écrit est très vague. Par exemple, en ce qui concerne les personnes qui s'enchaînent au mobilier urbain, si vous avez sur vous un cadenas et que la police ne fait que soupçonner que vous allez vous attacher ou que vous êtes équipé pour, ils n'ont pas besoin de plus que ça pour vous arrêter. Ça ressemble à une forme d'abus de pouvoir de la police et c'est une injustice en soi.
But also an injustice in itself.
Injuste parce que les personnes arrêtées ont été relâchées sans charge et qu'il n'y aura donc pas de procès qui aurait pu examiner les circonstances des arrestations, déterminer si la police a bien ou mal agi.
Because the threshold for arrest is
low. Il va être de plus en plus facile d'arrêter quelqu'un, même si après les pouvoirs publics n'auront pas forcément les moyens d'entamer des poursuites. Il y aura donc de plus en plus de gens placés en détention provisoire avant que la police ne réalise qu'elle a fait une erreur. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que même si on ne va pas jusqu'aux poursuites, une personne courra plus de risques d'être interpellée pour avoir exprimé son avis en public, comme on devrait pouvoir le faire dans une démocratie. Pour avoir scandé, par exemple, « Ceci n'est pas mon roi », cela risque d'avoir un effet dissuasif sur tous les manifestants.
Une loi assez large pour en devenir insidieuse, disent l'avocat Alex Benn et l'ex-policier Paul Stevens. Et sachant que le gouvernement actuel est hostile aux manifestations, certains voient là une possible dérive autoritaire. C'est pour toutes ces raisons que Republic et d'autres groupes de pression sont en train de réfléchir à une action en justice commune contre cette nouvelle loi.
Qu'on soit seul, qu'on soit 100, qu'on soit 1000, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne, quand notre chant résonne, car notre sang bleu est noir.
Et en Belgique, un projet de loi qui veut éviter cette fois les débordements violents lors de rassemblements fait polémique. Le texte prévoit entre 3 et 6 ans d'interdiction de manifester en cas de violence grave ou de récidive. Surnommée la loi anti-casseurs, la société civile et les syndicats sont vent debout contre ce projet de texte, car les violations pas assez clairement définies dans cette loi risquent en réalité de limiter le droit à l'action collective en général. Laure Broulard à Bruxelles nous en dit plus.
Le texte a été discuté à la Chambre des représentants le 16 mai et pour appuyer ses arguments, le ministre de la Justice a montré aux élus des images issues d'un ancien journal télévisé montrant l'agression de policiers lors d'une manifestation contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. C'était le 23 janvier 2022 à Bruxelles. Près de 240 personnes avaient été arrêtées au terme de ce rassemblement qui avait dégénéré, 3 policiers et 12 manifestants emmenés à l'hôpital. Qui ose prétendre que cette violence brute aurait quelque chose à voir avec le droit de manifester, a ensuite demandé Vincent Van Quickenborn, qui assure vouloir plutôt protéger le droit de rassemblement et punir ce qu'il appelle des casseurs criminels. Mais face aux résistances de certains députés, le ministre de la Justice a préféré reporter le vote à une date ultérieure. La loi anti-casseurs est en effet critiquée par une grande partie de l'opposition, de la société civile et des syndicats, comme le FGTB, qui a appelé les différents partis à retirer ce texte. Il estime que les dispositions y sont définies de manière si large qu'elles font peser de grands risques sur le droit à l'action collective en général.
Et pour preuve, pourrait-on dire, cette grève des employés des supermarchés Delhaize en Belgique. Depuis des mois, les syndicats dénoncent des atteintes au droit de grève, Laure.
Delhaize, c'est une enseigne de supermarchés historique en Belgique. La direction a annoncé fin mars le passage sous franchise de ses dernières enseignes en gestion propre dans le pays, soit 128 supermarchés employant 9000 personnes. Depuis, les syndicats et les salariés redoutent une dégradation des conditions de travail et surtout une réduction des effectifs. Il dénonce des pratiques de dumping social. Le conflit s'est envenimé après une décision de justice interdisant les piquets de grève qui bloquaient l'entrée des magasins dans tout le pays. Des huissiers ont même été envoyés pour les rouvrir de force. Deux manifestations nationales ont déjà marqué ce conflit social. La première, mi-avril, avait rassemblé environ 1500 personnes à Bruxelles. La seconde, qui a eu lieu fin mai, a attiré 18 000 manifestants selon la police, 25 000 selon les syndicats, qui avaient également appelé à se mobiliser contre le projet de loi anti-casseurs.
Merci Laure Broulard, à bientôt.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not,
voisine de la Russie, la Finlande, indépendante de son grand voisin depuis 1917, reste marquée par les nombreux conflits qui l'ont opposée durant toute son histoire récente à la puissance impérialiste russe. Au point que ce pays d'Europe du Nord a développé l'un des modèles les plus aboutis de coordination entre défense militaire et défense civile. Non seulement Helsinki a la plus grosse artillerie d'Europe, le service militaire y est toujours obligatoire, mais la majorité de la population est formée à la résistance et est incitée à être volontaire en cas de crise. Un savoir-faire qui intéresse aujourd'hui l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, que la Finlande vient de rejoindre. Le reportage de Carlotta Morteo.
À 10 minutes en bateau du centre-ville, l'archipel fortifié de Suomenlinna.
À l'origine, la forteresse a été construite quand la Finlande faisait partie de la Suède à la fin du XVIIe siècle. Puis en 1809, on est devenu une province de la Russie jusqu'en 1917, quand on a gagné notre indépendance. C'est un bâtiment qui nous rappelle qu'on doit être capable de se défendre.
Sur l'île, Reidar Vasenius a le privilège d'accéder au plus grand sauna de Finlande, réservé aux officiers de marine et aux réservistes comme lui. Son service militaire a duré 11 mois, c'était il y a 35 ans.
Clairement, quand la Finlande dit qu'elle a presque 300 000 réservistes immédiatement mobilisables en cas de conflit, on peut s'interroger sur la qualité de ces hommes, malgré la quantité. En termes de compétences, est-ce qu'on se souvient de tout? Certainement pas. Mais à mon avis, la vraie question, c'est est-ce qu'on a la volonté? Est-ce qu'on est mentalement prêt à servir? Et pour la plupart des hommes, la réponse est oui.
Yes. Nous passons près d'un monument aux morts qui commémore la guerre d'hiver. Quand en 1939, le pays a été envahi par la Russie, la capitale bombardée et une partie du territoire, la Carélie, annexée.
Quand mes grands-parents me racontaient leurs souvenirs, ils étaient à vif, c'était très émotionnel. L'idée fondamentale qu'ils nous ont transmise, c'est « on ne sait jamais quand ils vont revenir ».
Dans les entrailles de la capitale, 5500 abris anti-atomiques parfaitement entretenus peuvent abriter 900 000 habitants, soit 300 000 de plus que la population d'Helsinki.
Les centres commerciaux ont leurs abris, les nouveaux hôpitaux aussi, les immeubles bien sûr, les écoles ont des bunkers. En fait, on en construit sans arrêt.
Nina Järvenkylä du département des secours nous fait visiter cet immense bunker construit en 2003 à 20 mètres de profondeur.
En temps de paix, tu peux y faire ton sport, garer ta voiture et même aller nager, puisqu'un des abris sert de piscine. Ils ont un double usage.
600 lits de camp, autant de latrines, du matériel d'infirmerie et d'énormes cuves d'eau sont prévus. L'entretien des abris, la réparation des systèmes de ventilation et bien d'autres cours de résilience et de défense civile sont aussi subventionnés par le ministère de la Défense en Finlande, notamment pour les femmes.
J'ai suivi des stages de survie en hiver et en été. J'ai pris des cours de tir aussi.
Eija Eriksson, 51 ans, professeur des écoles.
Au départ, j'ai commencé pour moi, par curiosité, mais l'agression russe sur l'Ukraine a changé ma perspective. Il y a des compétences que tous les Finlandais devraient avoir.
L'État finlandais fait aussi des réserves de blé, de pétrole, de médicaments, de tourbe et de matériaux critiques pour l'industrie, de quoi survivre entre 6 et 9 mois.
Si tu as pensé à tous les pires scénarios possibles, aussi improbables soient-ils, tu sais quoi faire dans une crise. Donc tu ne paniques pas, c'est un effet psychologique très puissant de la préparation.
Minna Olander est chercheuse à l'Institut finlandais des affaires internationales.
Je vais le dire de manière un peu directe, mais la Finlande est obsédée par une potentielle attaque de la part de la Russie depuis 80 ans. C'est l'un des rares pays européens à s'être préparé à une guerre terrestre. terrestre, comme on le voit en Ukraine, une guerre à l'ancienne. La Finlande a l'une des plus grandes forces d'artillerie d'Europe, une défense aérienne sol-air. Donc maintenant, les capacités finlandaises sont intéressantes pour l'OTAN, puisque son analyse des menaces à long terme s'avère être juste. L'approche finlandaise implique d'être conscient de ce qui peut être exploité par l'ennemi dans ta société, dans ton cadre légal, dans ton niveau de préparation. Je pense que c'est ce qui est particulièrement intéressant, cette imbrication du civil et du militaire en matière de défense.
Aujourd'hui protégée par le parapluie de l'OTAN, la Finlande n'a toutefois aucune intention de baisser la garde, mais plutôt de partager son savoir-faire.
Avec 41% des suffrages, le parti conservateur grec Nouvelle Démocratie et son chef, le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, ont largement remporté les élections législatives. Comment expliquer la victoire du dirigeant conservateur ? Kyriakos Mitsotakis se targue d'un solide bilan économique après des années de crise, mais sa popularité a aussi été affectée par plusieurs scandales. Son portrait signé Margot Ratezik.
J'espère que les quatre prochaines années seront des années de croissance rapide pour la Grèce, mais une croissance qui limitera également les inégalités et qui garantira que nous nous concentrions sur le soutien aux personnes les plus vulnérables.
L'économie, un thème cher aux yeux du libéral Kyriakos Mitsotakis. Bilan, après 4 ans au pouvoir, une croissance de près de 6% l'an dernier. Des résultats honorables après des années de crise, selon Georges Prevelakis, professeur de géopolitique à l'université de la Sorbonne à Paris.
Il a hérité une situation extrêmement difficile. Bien sûr, à cause d'un côté de la crise économique et de la politique d'austérité. Il a mené une politique qui a eu des résultats sont évidents, taux de croissance, diminution du chômage. Alors bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir, surtout dans le domaine des inégalités.
Issu de la finance et ancien du cabinet de conseil McKinsey, le Premier ministre grec renvoie une image de technocrate. Il est parfois jugé arrogant. Les éditorialistes du pays le surnomment même le Macron grec. Mais les deux dirigeants présentent quelques différences, souligne Joël Dallègre, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales.
Je suppose que la comparaison avec Emmanuel Macron vient du fait que c'est quelqu'un de surdiplômé, de jeune pour un homme politique, et qui a aussi longtemps travaillé dans une grande banque. Une des grosses différences, c'est tout de même que c'est quelqu'un qui est un héritier de la politique qui a été élevé pour ça.
Et pour cause, le père de Kyriakos Mitsotakis a lui aussi été Premier ministre dans les années 1990. Mais malgré la tradition centriste de sa famille, l'actuel dirigeant a intégré à Nouvelle Démocratie d'anciens politiciens d'extrême droite. Cela ne fait pas de lui pour autant un homme de la droite dure, selon Georges Prevelakis.
Tout parti, évidemment, essaye de rassembler plus à droite, plus à gauche, etc. parce que autrement on ne peut pas gagner les élections. Dans le cas de Mitsotakis, c'est tout à fait clair que la Nouvelle Démocratie pense plutôt vers les centres.
Et c'est avec ce parti que le Premier ministre a arraché une victoire aux dernières législatives. Preuve que les électeurs n'ont pas sanctionné Kyriakos Mitsotakis dans les urnes, lui qui a pourtant vu son mandat émaillé de plusieurs scandales. D'abord une affaire d'écoute téléphonique de journalistes et cadres politiques impliquant son propre neveu. Et plus récemment, il a dû répondre à la colère provoquée par la catastrophe ferroviaire de Larissa. Ce drame qui a fait 57 morts a donné lieu à des manifestations contre le gouvernement, accusé de négligence, Joël Dallègre.
J'ai l'impression qu'en fait, les électeurs sont un peu résignés. Ils savent très bien que la mauvaise gestion des trains s'étale sur quasiment 20 ans, donc les autres ont eu leur part de responsabilité auparavant. Et en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, je crois qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait, il y avait déjà des écoutes téléphoniques précédemment et que donc c'est pas bien du tout, mais il est pas tout seul.
Kyriakos Mitsotakis n'entend pas se contenter d'une majorité relative au Parlement. Il a convoqué de nouvelles élections fin juin avec d'autres règles qui octroient un bonus au parti arrivé en tête, pouvant aller jusqu'à 50 sièges supplémentaires. Un second tour où Kyriakos Mitsotakis fait figure d'ultra-favori.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet ou en podcast. À demain!